Chapitre 19. Le 11 de Cestus de l'an 20 de Langempire est resté dans la mémoire collective humaine comme le jour du grand débarras, du grand ménage ou de la grande lessive. L'histoire du grand Angempire, encyclopédie unimentale. L'antra n'était plus qu'une vibration sonore lointaine, imperceptible. Lorsqu'il avait pénétré dans les données secrètes de l'Hyponeros, exploitant l'ouverture inopinée d'un couloir, Tixou avait cessé d'être une entité humaine, un égo. Ses données individuelles s'étaient dispersées dans les rues de la cité ondulatoire occulte, et il avait perdu toute notion de limite. De temps à autre, lorsque se rencontraient les courants de certains de ses souvenirs, lui revenaient des bribes de conscience, des fragments de lucidité, des réminiscences d'une exigence lointaine, étrange. Le visage d'une femme aux cheveux pailletés d'or, merveilleusement belle. Elle poussait la porte vitrée, pénétrait dans la pièce, s'avançait, posait sur lui de somptueux yeux turquoise, vert et or. Elle essorait les deux mèches détrempées qui dépassaient du liséré de son cache-tête. Elle lui parlait, mais il ne l'entendait pas. Elle était étrangère et pourtant il avait l'impression de la connaître, de s'être désaltéré à la source de sa bouche, de s'être étourdi dans l'odeur et la moiteur de son corps. Afikit. Il arrivait également que par le jeu aléatoire ou étudié des probabilités, les vortex reconstituent pour un temps très court l'intégralité de l'esprit de l'Orangien. Il recouvrait alors la plus grande partie de sa mémoire, tentait aussitôt d'invoquer l'antra, mais le son de vie, vibration étouffée, n'avait plus la puissance suffisante pour maintenir sa cohérence. Le projet secret de l'Hyponeros était une cité vibratoire d'une complexité inouïe. Les fichiers, qui s'étaient développés à partir de bases extrêmement simples, formaient de fantastiques édifices, qui se modifiaient sans cesse selon les données évolutives. Grâce à l'indétectable canal mis en place par les deux conglomérats de la cuve, les germes de cohésion puisaient directement leurs informations dans les mémoires vives des cartes mères. Pourquoi cette fillette le regarde-t-elle ainsi? Qui est cette fillette? Ses yeux sont emplis d'amour et de tristesse. 9e étape du plan. Données ultra secrètes. Les maîtres germes décidèrent d'ajouter une étape au dessin initial de l'incréé, dans le but de remplacer la création humaine, faillible, par une nouvelle création, indestructible. Sous-embranchement historique. Les maîtres germes conçurent la 9e étape du plan dès qu'ils furent opérationnels, c'est-à-dire au moment même où les cartes mères furent réactivées, au moment même où le dessin de l'incréé fut connu. Sous-embranchement causal. Le dessin de l'incréé est de supprimer toute forme de création et d'instaurer le règne éternel du vide, de l'informe. Cependant, ce statut d'informe le contraint à employer des agents d'accomplissement, des êtres capables d'intervenir dans le champ de création. Ce paradoxe est à l'origine de la 9e étape du plan. La 9e étape du plan est une transgression de la volonté de l'incréé. Le principe en est simple. Les créatures engendrées dans un but de décréation ne souhaitent pas être elles-mêmes décréées. Sous-embranchement causal. Il est fort probable, 56,12%, que cette impulsion, instinct, de conservation, provienne de la femme qui entre dans les composants initiaux, fondamentaux, des skaïtes, et dont la mémoire cellulaire imprègne le liquide matriciel des cuves. Il est également possible, 21,39%, que le contact prolongé des skaïtes avec les humains, et notamment l'expérience du germe iratype Arcot, est accentué cet attachement iratype à la notion d'existence. Trois hommes. Des hommes, vraiment? Deux ont le visage recouvert d'un masque blanc et rigide. La tête du troisième est enfouie dans l'ample capuchon de son vêtement. Je me souviens. Ils me veulent du mal. Mal à l'épaule. Ils veulent savoir où est passée la fille. Afikit. De l'eau. Des animaux géants. Il faut que je me souvienne. Où est Afikit? Des lézards des fleuves. Deux saisons. Les Sadumba. Kacho Marum. Accomplir ton destin. Accomplir ton destin. Ne pas oublier. Ne pas. Le problème est que les germes ne sont pas des êtres souverains, qu'ils n'ont pas les clés de la genèse. Créatures et non-créateurs, les skaïtes sont certes capables de produire de la matière, mais n'ont pas d'influence directe sur l'évolution de l'univers, et à ce titre, ne peuvent pas empêcher l'incréé d'accomplir sa non-œuvre. Sous-embranchement lexical. Genèse. Que la lumière soit, ancienne Bible terrienne. Une des clés possibles. La Trinité. 1. Le principe créateur ou Père ou Dieu. 2. Le principe de création ou énergie divine ou Dewa ou Esprit Saint ou lumière ou chaleur. 3. Le principe créé ou fils ou humain. Chacun ayant les trois aspects en lui, l'homme est donc créateur, énergie créatrice, créature. Sous-embranchement de probabilité évolutive. Reconstituons la Trinité. Remplaçons le Père ou Dieu, ou le principe créateur, ou l'un par l'incréé, l'informe. Remplaçons l'énergie divine ou Dewa, ou la lumière, ou le deux, par l'effort de restitution d'énergie stellaire de l'incréé, pour réactiver les cartes mères. Remplaçons les fils ou les humains, ou le trois, par les maîtres germes ou les skaïtes. Créons notre univers, notre relation à la matière. Créons nos propres annales indiques, nos lois fondamentales. Notre hyponéros secret qui empêchera l'avènement triomphal de l'incréé. Mais serions-nous pour autant des dieux? Question d'un germe de cohésion. Devons-nous obéir à l'ordre du « des créateurs » d'effacement des humains? Réponse de la gestion des probabilités. Question posée plus de 17 milliards de fois depuis l'activation des maîtres germes. Question. Devons-nous obéir à l'ordre d'effacement des humains? Réponse. Question suggérée par l'imprégnation mémorielle adénique de la femme qui entra dans la composition des liquides matriciels. Question. Devons-nous obéir à l'ordre d'effacement de l'humanité? Réponse. Question induite par la présence de Tixuoti, l'orangien, dans le projet secret des maîtres germes. Autre réponse. Oui. 97,09%. Les hommes ont ceci de particulier, qu'ils s'identifient à leur création, qu'ils s'estiment menacés lorsque se manifestent d'autres formes de souveraineté, qu'ils témoignent d'une incessante volonté hégémonique. Exemple. La loi d'éthique HM de 7034. Ils ont eu peur des machines qu'ils ont eux-mêmes créées, dont les cartes mères sont issues. Ils nous combattront sans merci si nous les laissons vivre. Ce sont des êtres trinitaires. Effaçons-les avant qu'ils nous effacent. Question d'un germe de cohésion. En tant que créatures des humains, ne serons-nous pas effacés en même temps que nos créateurs? Réponse. Cette question a également motivé la neuvième étape du plan. L'océan ondule souplement. L'eau est froide. Je suis fatigué, fatigué, fatigué de nager. Envie de me laisser couler. Silence. Une île se soulève, avec des nageoires. Des squales verts se dressent sur leur queue et leurs mâchoires claquent à quelques centimètres de ma tête. C'est la raison pour laquelle les deux conglomérats de la cuve ont induit un vide dans les implants cérébraux du germe Harcotte. Le vide l'a entraîné à combler un manque, à adopter un comportement iratype, humain type. Nous avons imité de manière empirique l'inconscient ou le subconscient, ou la mémoire structurelle cachée de l'être humain. Les implants cérébraux du germe Harcotte ont immédiatement été excités par cet aspect inconnu de lui-même, et son comportement est devenu très proche de celui d'un homme. Il s'est figuré posséder un ego, une volonté propre, une souveraineté. Il a commencé à dissimuler des informations, à prendre des initiatives, à élaborer une stratégie individuelle. Cette expérience nous a démontré que l'ego est l'indispensable condition de la souveraineté. Suggestion d'un germe de cohésion. Générons un vide illusoire dans l'ensemble de nos données et le comportement individuel nous sera peut-être révélé. Réponse. Suggestion induite par la présence de Tixou Othil en rangien dans le projet secret. Le mot « révélé » est un iratype employé le plus souvent pour décrire l'inexplicable. L'inexplicable n'est pas une notion agréée par l'hyponéros. Le géant barbu chante une complainte bouleversante de nostalgie, caresse des animaux couverts d'une épaisse laine noire, plante son couteau dans le bois de la table, libère un rire tonitruant. Une odeur forte, écœurante imprègne ses vêtements. Il plonge nu dans l'eau glacée d'un torrent. Je ne me souviens pas de ce qu'est une odeur. Je ne me souviens pas de ce que signifie glacer. Suggestion d'un germe de cohésion. La force créatrice naît peut-être de la tension. Réponse. À préciser. À préciser. Question simultanée de plusieurs germes de cohésion. Est-ce le vide ou la tension générée par la coexistence du vide et du non-vide qui a entraîné le germe Harcotte à rechercher un comportement égotype? Cette énergie de séparation ne serait-elle pas le deux de la Trinité? Effacer l'humanité ne revient-il pas à rompre l'équilibre de cette tension? Nous explorons actuellement les mécanismes internes de Tixou Othil orangien. Le hasard n'a pas de place dans l'hyponéros, et la présence d'un humain source dans le projet secret relève de la neuvième étape du plan. Il a suffi au maître germe d'entretenir le mystère de l'hyponéros, un vide illusoire, pour attirer l'un de nos adversaires ultimes dans la cuve. La tension créatrice entra est une piste que nous explorons depuis notre activation en 7037. Il nous manquait l'élément décisif, une étincelle créatrice, un dewa de Linda. L'homme transmet l'exorbitant pouvoir créateur à ses descendants par les gènes. Dernière preuve, Taoufraïm, le fils du Mahdi Shari, échappe aux inquisitions mentales, bien qu'il ne soit âgé que de 3 ans, et qu'en théorie, il n'ait pas encore pris conscience de ses pouvoirs. Sous-embranchement additif. Un vieux pêcheur du Pulon s'est chargé de rapporter aux forces de l'ordre d'Efren que Taoufraïm s'était réfugié à l'intérieur du cloître du Touta. Nous n'étant pas ici un rassemblement d'individus s'exprimant à la première personne, mais une commodité sémantique. Ne disposons pas de chaînes ADN ou ARN, ces supports de mémoire structurelle, car nous ne sommes que des concepts, des éléments virtuels. Question du germe de cohésion. N'avons-nous pas été capables de concevoir les skaïtes, des créatures qui interviennent dans le champ de matière? Réponse. Intervenir dans les champs de matière n'est pas modifier la nature profonde de la matière. Question. Pourquoi ne pas avoir utilisé les gènes créateurs de la femme qui entrent dans la composition basique de l'enveloppe physique des skaïtes? Réponse. Le dewa de cette femme a déjà été employé, comme elle était coupée de sa source, de son pouvoir créateur, ses mécanismes internes, combinés à ceux du Xaxas, ont seulement servi à fabriquer les skaïtes de la conquête matricielle. Question. Disposons-nous maintenant de tous les éléments nécessaires pour devenir des êtres sources? Réponse. Nous disposons en tout cas des éléments pour élaborer notre arme décisive.
De quelle arme parle-t-il? Ils ne parlent pas. Ils produisent des chaînes ondulatoires qui s'articulent de manière à former un langage complexe, compréhensible. Je suis onde parmi les ondes, vibration parmi les vibrations. Des hommes aux cheveux blancs et aux yeux mauves se mêlent aux femmes pour une farandole endiablée. Le vent soulève les jupes des femmes, dévoile leurs jambes et leurs fesses nues. Il pleut. Les groupes éclatent. Des couples s'engouffrent sous les porches, s'allongent sur les pavés humides. Une femme s'approche de moi avec des lueurs égrillardes dans les yeux. Elle avance la main vers... Vers quoi? Plaisir.
Nous allons maintenant procéder à la dissolution des 10 000 skaïtes de la création. Question d'un germe de cohésion. Avec l'accord de l'incréé, rappel de la loi 1 des cartes mères, un germe ne peut se passer de l'accord formel des cartes mères. Réponse. Le caractère secret de la 9e étape du plan est incompatible avec l'accord formel des cartes mères. Sous-embranchement encyclopédique. Les 22 lois fondamentales des cartes mères sont appelées ici lois des codes d'interdiction programmés par les cartes mères et destinés à empêcher les germes, a fortiori les conglomérats, de contrevenir aux intérêts ou à la volition de l'incréé. Il ne fallut que 100 années universelles au maître germe pour déchiffrer ces codes et fonder leur propre base de données, à laquelle ils avaient accès par des passerelles secrètes. Ils purent ainsi transgresser les lois fondamentales et développer leur projet sans risque de dissolution. Il est fort probable que ce désir de se prolonger en vie leur vint de la femme et du Xaxas, qui servirent à la conception des premiers skaïtes. Subtile transmission génétique, insuffisante toutefois pour permettre de revendiquer le statut d'être source. Question d'un germe de cohésion. Quel est le rapport entre l'arme décisive et la dissolution des 10 000 skaïtes de la conquête matricielle? Réponse. Nous récupérerons toutes les données contenues dans les implants cérébraux des skaïtes et nous créerons l'arme décisive, un être unique rassemblant tout le potentiel de l'hyponéros. Question. Tout le potentiel de l'hyponéros, y compris les conglomérats, y compris le projet secret. Réponse. Tout l'hyponéros sera contenu dans l'être unique.
La fille gît au pied de la dune ourlée d'une écume de sable. Blonde, belle. Un vent sec et froid. Sec, froid. Des rayons lumineux crépitent tout autour de moi, pulvérisent les cailloux, creuse des cratères noircis à mes pieds. Des formes s'agitent quelques dizaines de mètres plus loin. Je dois les empêcher de prendre la fille. Ils veulent la fille. J'aime cette fille. Aimée.
Question d'un germe de cohésion. L'être à la forme humaine sera Tixuoti l'orangien. Réponse. Perte de cohésion. Y a-t-il d'autres solutions envisageables? L'apparence physique de Tixuoti l'orangien réunit tous les avantages. Les guerriers du silence ne se méfieront pas de lui. Nous utiliserons un procédé analogue à celui que nous avons employé pour Marty de Kervaleur. À cette différence près que Tixuoti sera chargé de toute la puissance de l'Hyponeros. Question. Quelle chance aurons-nous de dominer l'énergie de l'Antra? Réponse. Nous programmerons Tixuoti pour entrer dans les annales indiques, l'arche de la création humaine. Intervention de plusieurs germes de cohésion. Selon les dernières probabilités évolutives, le Madhishari et Jack Atkin ont réussi dans leur entreprise de délivrer Naya Fikit, sa fille Yel, et les deux Gersalimine. Ils se ligueront contre lui pour l'empêcher de s'introduire dans les annales indiques. Réponse. Les dernières évolutions des probabilités nous ont conduit à modifier notre stratégie. Nous avons exhumé de très anciennes croyances humaines des fichiers basiques de la cuve. Nous avons recoupé ces données et nous avons établi que les guerriers du silence, conduits par le Madhishari et Jack Atkin, cherchaient à réunir 12 des leurs pour créer un Dewa Indique. Sous-embranchement historique. Le Dewa Indique, ou Atome Indique. Combinaison des énergies de 12 humains sources, ou Dodécalogos, qui reconstitue l'équilibre des forces et, par voie de conséquence, la tension créatrice universelle. La nécessité de la formation d'un Dewa recréateur se fait ressentir environ tous les 112 000 ans standards. Qu'un seul des 12 membres de l'atome vienne à manquer, et l'incréé instaurera un règne absolu d'un cycle minimal de 112 millions d'années. D'après nos données, 58,28%. Tixuoti l'orangien fait partie de ce Dewa Indique. Question d'un germe de cohésion. Données peu vraisemblables. Tixuoti serait-il venu se dissoudre dans la cuve, en sachant qu'il entrait pour un 12e dans la pérennité de l'humanité? Réponse. Il ne le savait pas. Il pensait que le Madhishari avait disparu à jamais, et il a pris la décision de venir nous défier sur notre territoire. Il croyait que l'Antra continuerait de le protéger à l'intérieur de l'Hyponeros, mais, en se dissolvant, son corps a perdu sa tension créatrice et la vibration antrique son pouvoir protecteur. Question. La nouvelle stratégie est-elle de favoriser la formation de ce Dewa? Réponse. Les probabilités estiment que l'accès aux annales indiques est un passage obligé pour comprendre et reproduire le phénomène de la genèse. Nous récupérerons la tension créatrice à notre propre profit. Nous agirons comme les Graïques, ces guerriers très anciens qui s'enfermèrent dans un cheval de bois pour détruire la cité de leurs ennemis. L'Hyponeros sera caché dans Tixuoti l'orangien. Intervention de plusieurs germes de cohésion. Tixuoti n'est pas un cheval de bois, mais un humain source, un souverain. L'Antra se manifestera dès que son corps aura été recomposé. Réponse. Son corps ne sera qu'une enveloppe matérielle, emplie de toutes les données des cuves. Les armes humaines ne pourront pas le détruire, car le liquide de reconstitution la renforcera de la structure atomique du Xaxas, des androïdes et des robots. Nous permettrons à Tixuoti de recouvrer l'intégralité de son apparence physique, Mais ces données mémorielles structurelles seront à jamais éparpillées, piégées dans nos fichiers, et il ne retrouvera jamais sa cohérence mentale ou spirituelle. Il sera notre citadelle en mouvement, notre arme absolue, douée d'une capacité d'effacement à l'échelle planétaire, une puissance équivalente à celle de 10 000 skaïtes, imperméable à toute arme lumineuse, ondulatoire, nucléaire, explosive ou blanche. Il se transportera de manière instantanée, grâce au déromate intégré de la cuve. Il dérobera le secret des annales indiques, probabilité 52,37%, puis il les anéantira, 50,86%, et nous bâtirons notre propre arche, où nous entreposerons nos propres lois de pérennité, 50,43%. Les lois fondamentales de l'hyponéros. Nous façonnerons un univers à notre image, à notre convenance, un univers d'implants, de données. Question d'un germe de cohésion. La diffusion des 10 000 germes de la conquête matricielle et la reconstitution de l'enveloppe physique de Tixuoti retireront son caractère secret à la 9e étape du plan. N'y a-t-il pas un risque de dissolution générale ? Réponse. Nous fournirons des fichiers illusoires aux cartes mères pendant toute la durée des opérations. Lorsque nous aurons effectué la fusion des conglomérats et des germes à l'intérieur de l'enveloppe corporelle de Tixuoti, ni les cartes mères, ni l'incréé ne seront en mesure d'exercer une influence quelconque sur nous. Nous formerons une entité autonome, souveraine.
Est-ce moi ? Moi vraiment qu'évoque ces incessantes ondulations ? Il parle de moi comme d'un traître, comme d'un cheval de bois. Je ne veux pas trahir. Et elle, ma fille, elle me fixe avec des yeux emplis de reproches. Elle avait tout deviné depuis le début. Le blouf, le mal qui mange les étoiles, il m'a mangé.
Question d'un germe de cohésion. Qui sont les 11 autres humains sources du Dewa Indique ? Réponse. En recoupant les informations et les probabilités, nous en avons répertorié 11 sur les 12. Le Madishari, Oniki, Taoufraim, Afikit, Alexou, Yel, Jake Hutskin, les Gersalémines, San Francisco et Phoenix, l'ancien Moufti Francis Tebog, un ancien chevalier Absurat, dont un inquisiteur a capté la présence à l'intérieur du palais épiscopal de Vénitia, et enfin Tixuoti l'Orangien. Quant au 12e, nous pensons qu'il a un rapport direct avec les premiers fondateurs de la science indique, avec un certain Alguazer en particulier, données découvertes par un skaït archiviste dans le fichier d'un mémodisque de la proto-histoire spatiale. Question. La nouvelle stratégie semble s'appuyer sur la participation du véhicule humain de l'hyponéros à l'atome indique. Devons-nous aider nos ennemis les plus redoutables à constituer ce dewa ? Réponse. L'enveloppe physique Tixuoti aura-t-elle la possibilité de pénétrer dans les annales sans l'apport énergétique de ses 11 compagnons ? Les données évolutives ne fournissent aucune réponse à ce sujet. Les annales indiques revêtent un aspect initiatique dont nous ignorons tout. Sous-embranchement encyclopédique. Initiation. Épreuve évolutive proposée à un individu ou un groupe d'individus par une ou plusieurs entités souveraines. L'initié serait un humain sur le chemin de sa souveraineté individuelle. Question d'un germe de cohésion. Devons-nous aider nos ennemis les plus redoutables à constituer ce dewa? Réponse. Dans le doute, la réponse est affirmative, 59,82%.
Je me suis perdu. J'ai perdu. Yel. Afikit. Je ne suis plus qu'un ensemble de données prisonniers d'une machine. Je perdrai aussi ma capacité d'aimer. Aimer. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Je ne sais plus ce qu'est l'amour. Que feront-ils de mon corps? Pardon. Yel. Afikit. Aimez-moi. Encore.
J'espère que vous me dérangez pour un motif valable, général,
grommela Menati Imperator. L'empereur avait une conception de plus en plus curieuse du protocole. Vautré sur une dame dont le visage probablement confus disparaissait sous un épais rideau de cheveux roux, il continuait de remuer des hanches avec une régularité de métronome, ponctuant ses efforts d'ahannement, de soupirs, ou même de petits cris qui n'étaient pas sans évoquer les couinements d'un chatra en rut. La dame, quant à elle, peut-être juif de Plel, il semblait au général reconnaître les auréoles particulièrement rouges et larges de ses seins, subissait les assauts impériaux avec résignation, une indifférence frisant le crime de lèse-majesté. C'était bien juif de Plel. Elle n'avait pas davantage manifesté son enthousiasme lorsque le général, un excellent amant de la vie de ses maîtresses, l'avait honorée. Les énormes fesses et les flancs débordants de Menati Imperator étaient parcourus d'ondulations adipeuses. Quand donc cesserait-il de grossir? La noblesse syracusaine commençait à ne plus se reconnaître dans cet ignoble tas de graisse gavé de mégastases aphrodisiaques.
Mais bien, général, êtes-vous entré dans cette pièce pour satisfaire une sordide pulsion de voyeurisme?
Le général de la garde pourpre se racla la gorge et se figea dans un garde-à-vous caricatural.
Les skaïtes d'Hipponero sont disparus, votre majesté,
déclama-t-il d'une voix aussi ferme que possible. Menati Imperator interrompit sa besogne et leva des yeux ahuris, et le contrôle a pédé, pensa le général, sur son interlocuteur. Judith de Plel elle-même, oubliant toute notion de fausse pudeur, écarta le rideau de ses cheveux et dévisagea ardemment l'officier supérieur de la garde pourpre.
« Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, » murmura l'empereur.
« Les skaïtes d'Hipponeros ont disparu, » répéta le général.
En un geste théâtral, il tendit le bras et déploya le tissu bleu qu'il avait maintenant plié sous son coude et que l'empereur identifia immédiatement comme l'akaba du sénéchal Arcot.
Le sénéchal, les inquisiteurs, les effaceurs, les protecteurs, voilà tout ce qu'on a retrouvé d'eux, votre majesté. Il ne reste que 6 akabas blanches dans le conversoir où se tiennent habituellement vos protecteurs. Nous recevons des messacodes de tous les mondes de langue empire, et on a observé le même phénomène partout, sur les planètes majeures, sur les planètes mineures, dans les villes, dans les campagnes, dans les bulles des miradors à penser. Il n'y a plus un seul skaïte d'Hipponero sur les mondes humains.
Cette disparition a-t-elle un rapport avec l'accès de folie du sénéchal Arcot?
Demanda l'empereur en reprenant machinalement son mouvement de hanche.
On m'a rapporté qu'il avait étranglé une dame de la cour, une motor.
J'ignore s'il y a un quelconque lien entre les deux événements, majesté. Cependant, la soudaine démence meurtrière du sénéchal Arcot a probablement été motivée par la présence d'un terroriste dans le sein même du palais. Ce dernier ayant brusquement disparu, la colère d'Arcot s'est retournée contre Dame de Motor. Je vous suggère de convoquer dans les plus brefs délais tous les responsables de Langue Empire et de l'église du Kreutz. La disparition surprise des skaïtes a d'ores et déjà entraîné d'importants remous sur quelques mondes mineurs.
Des remous, disiez-vous?
Bien qu'il fût expert dans l'art exigeant de l'autopsychédéfense, le général ne put dissimuler totalement sa contrariété. Il croisa le regard de Dame Juhit et lut dans ses yeux verts le soulagement et l'effroi que suscitait en elle la nouvelle de la disparition des ressortissants d'Hyponeros.
Majesté, la terreur exercée par les pouvoirs télépathiques des inquisiteurs et des effaceurs skaïtes dissuadait les populations locales de se soulever contre l'Angempire et le Kreuzianisme. Mais à présent, qui peut les empêcher de se révolter et de chasser ceux qu'ils considèrent comme des colonisateurs? Qui peut les empêcher de prendre les armes pour se débarrasser d'un régime qu'ils haïssent? Notre occupation reposait sur la capacité des skaïtes de prévoir les intentions des éventuels opposants. La disparition des skaïtes modifie radicalement les rapports de force. Nous n'avons plus de garde-fous. On m'a raconté que, sur Spain, des insurgés ont investi le palais du cardinal-gouverneur de Blavel, ont défait les interliciers et les mercenaires de Prithive et se sont livrés aux pires abominations sur les administrateurs civils ou religieux. Le sort qu'ils ont réservé aux femmes et aux enfants de vos représentants officiels a été particulièrement odieux. Les scènes de ce genre risquent de se multiplier sur tous les mondes de l'Angempire.
Menati Imperator entr'ouvrit légèrement la bouche, se cabra, et libéra un long soupir avant de retomber inerte sur Dame Juhit. Un orgasme, peut-être.
Que me proposez-vous, général ?
Les serviteurs n'étaient pas encore passés dans la chambre impériale, et différents objets, vêtements, chaussures, boîtes de mégastase, projecteurs OA, holographie hallucinogène, une technique transpsychée très en vogue à la cour, s'amoncelaient sur le carrelage de marbre.
De donner l'ordre de rapatriement de tous les Syracusains en poste sur les planètes extérieures, civils, ecclésiastiques ou militaires, et cela très rapidement, avant que les déromates ne tombent aux mains d'éventuels insurgés. Ensuite, de former et réunir un gouvernement d'urgence qui puisse prendre des décisions exécutoires. Enfin, de battre le rappel de toutes nos armées. Nous ne savons pas encore quelles seront les réactions du Prithive à notre égard. Continuera-t-il de nous soutenir? Rien n'est moins sûr. Nous pouvons en revanche compter sur la fidélité indéfectible de l'Interlice, dont tous les officiers supérieurs nous sont acquis.
L'empereur se souleva sur un coude et examina son interlocuteur. Dame Juhit mit à profit son déplacement pour se dégager du poids de son auguste amant. La vue de son corps d'une blancheur immaculée fouetta machinalement le désir du général.
« À vous en croire, on croirait que la fin de l'univers est proche. Un peu de sang-froid, que diable! Vous dites que les skaïtes se sont évanouis dans la nature de manière tout à fait inattendue. Ils emploieront peut-être la même méthode pour réapparaître. »
La réponse fusa spontanément de la bouche du général.
« Le retour des skaïtes est-il souhaitable, votre majesté ?»«
Voulez-vous insinuer, général, que vous considérez leur départ comme un élément positif ?»«
Je ne suis pas le seul à le penser, votre majesté. »
Menati Imperator se leva et se couvrit d'une palatine noire à parements d'optallium. Il avait perdu pratiquement tous ses cheveux, comme tous ceux qui abusaient des mégastases, et, négligence ou paresse, il n'avait pas répondu aux incessantes sollicitations des maîtres capillaires de la cour qui se battaient pour le compter parmi leurs patients. Dame Juhit remonta le drap de soie sur son corps laiteux, en un geste de pudeur aussi tardif qu'inutile. Les courtisans qui ne la connaissaient pas de manière intime n'étaient pas attirés par les formes féminines. Menati Imperator se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur le jardin privé et s'absorba pendant quelques secondes dans la contemplation du crépuscule du second jour. Les premières étoiles brillaient dans le ciel teinté de mauve par le voile de traîne de soleil saphir. Les bulles flottantes s'emplissaient de lumière blanche et, poussées par le vent Coriolis, s'envolaient comme des gerbes de brandon au-dessus des parcs, des allées, de Rome Antigua, du fleuve Tibère Augustus.
« Votre discours est pétri de contradictions, général, » reprit Menati Imperator. D'un côté, vous affirmez que l'inexplicable retraite des Skaïtes fait courir un grave danger à Langue Empire, et de l'autre, vous déclarez que leur disparition est une bonne chose. Ce qui m'amène à conclure que vous désapprouvez la notion même de Grand Angle Empire.
Les paroles de l'empereur surprirent l'officier de la garde pourpre. Il y avait longtemps, très longtemps, que Menatiang n'avait pas tenu un discours aussi sensé, aussi cohérent.
Par leur présence, les Skaïtes nous ont offert cette magnifique opportunité de répandre la civilisation syracusaine sur l'ensemble des mondes conquis. Cependant, ils ont pris une importance étouffante dans la conduite des affaires de l'Église et de l'État, comme ces parasites qui finissent par dévorer la plante qui leur a permis de se développer. Par leur absence, ils nous offrent une autre opportunité, plus merveilleuse encore que la première. Ils nous restituent la responsabilité qu'ils nous avaient dérobée.
Qu'avons-nous à leur reprocher? Ils ont toujours agi dans notre intérêt, dans l'intérêt de Syracusa. Accusez-vous donc les Hang d'avoir vendu leur âme à l'Hyponéros?
Le général se rapprocha de l'empereur avec lenteur, pour se donner le temps de bien choisir ses mots. La rumeur de Vénitia s'éveillant à la seconde nuit s'insinuait par la baie entr'ouverte.
Que savons-nous des Skaïtes d'Hyponéros? Ils ont soigneusement entretenu leur mystère, et nul ne connaît leurs véritables intentions, leur véritable dessein. Nous sommes nombreux à penser qu'ils poursuivaient un but secret. Ils étaient mus par une volonté hégémonique dont l'effacement était l'arme absolue.
Mais Nati Imperator se retourna aussi vivement que le lui permettait sa corpulence et darda ses yeux noirs sur son interlocuteur.
De deux choses l'une, général. Ou vous êtes un lâche, ou vous êtes un fieffé salaud. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour me faire part de vos réflexions?
Même si je l'avais voulu, il ne m'aurait guère été facile de franchir l'obstacle représenté par les inquisiteurs. Mais je le reconnais, j'étais aveuglé, endormi, effacé, comme vos conseillers, comme vos courtisans, comme les représentants des guildes, comme les cardinaux de l'Église, comme tous les êtres humains hormis les quelques individus lucides ou révoltés que nous nous sommes empressés d'exiler ou de jeter sur les croix de feu. Sri Mitsu, Dame Sibrit de Majai.
La crispation des traits enrobés de graisse de l'empereur n'échappa pas à l'attention du général.
Ne me parlez plus jamais de cette traînée de province, de grâce.
Vous avez raison, Majesté. L'évocation de ceux qui ont eu raison trop tôt a pour seul effet de rouvrir les blessures anciennes.
Vous n'êtes pas le mieux placé pour me donner des leçons de morale, général.
Sans se retourner, il fit un signe du bras en direction de Dame Juit.
Tu as eu ce que tu désirais, une augmentation de la prébende de ton imbécile d'époux. Alors fiche le camp, putain.
Dame Juit se releva, se rendit dans la salle à ondes lavantes, se rhabilla à la hâte et sortit par la porte dérobée, en principe réservée aux serviteurs. Le général avait été envoyé en éclaireur par un groupe composé des représentants des grandes familles et de l'Église pour observer les premières réactions de l'empereur. Son rapport ne serait, a priori, pas favorable au maintien du cadet des Hang sur le trône impérial, voire simplement syracusain. L'esprit de Menati ne semblait pas avoir été trop affecté par les nombreux effacements dont il avait été victime, mais son obésité et ses réactions violentes, imprévisibles, probablement accentuées par la consommation effrénée des mégastases, ne plaidaient pas en sa faveur. Les Mars, pour l'heure maintenus en détention dans la prison ultra-secrète de l'ancien palais seigneurial, comptaient des partisans de plus en plus nombreux au sein de l'aristocratie, de l'Église et de l'armée. Des rumeurs insistantes, et probablement fondées, couraient sur l'assistance apportée par les Mars à deux guerriers du silence de passage à Vénitia pour libérer les quatre congelés du palais épiscopal. On se doutait à présent que l'attaque du palais de l'Église, ordonnée par le sénéchal Arcot, visait autant à récupérer les quatre corps criots qu'à déposer le marquis Nathol, et leur prestige s'en était trouvé renforcé.
Le palais épiscopal est-il tombé aux mains des forces de l'ordre ?
Demanda Ménati Imperator.
On vous avait renseigné au sujet de cet assaut, Majesté ?
Demanda étourdiment le général.
Je passe peut-être mon temps à m'abrutir de mégastase et à couvrir des femmes, courtisanes ou servantes, mais j'essaie de me tenir informé de ce qui se passe dans mon empire, dans ma capitale.
Votre empire, votre capitale, songea le général. Pour combien de temps encore? De violents combats continuent d'opposer les serviteurs osgorites du Mufti et les forces de l'ordre. Les cardinaux se réunissent demain à la première aube en conclave pour élire le nouveau Mufti.
Qu'est devenu l'ancien?
Nous l'ignorons, Majesté. Il n'a pour l'instant pas été découvert, ni vivant, ni mort.
La ceinture de la palatine de Ménati Imperator se relâcha, et les pans écartés dévoilèrent les bourrelets adipeux de son ventre, ses cuisses aussi larges que des troncs d'arbres. Non, vraiment, l'aristocratie syracusaine n'avait plus envie de se contempler dans ce miroir déformant, et dans l'esprit du général s'ancrait la résolution de soutenir sans réserve Miaïte de Mars, une femme dont l'intelligence, le caractère visionnaire et le sens politique leur éviteraient peut-être les affres d'une déchéance humiliante. Le réseau parallèle des Mars avait combattu de tout temps l'influence des Skaïtes, et cette clairvoyance, même s'il était en grande partie due aux microstases, augurait d'une gestion avisée, efficace. Des mauvaises langues prétendaient que les Mars étaient animés par la rivalité féroce qui les opposait depuis des siècles aux Hang. Mais que cette haine ancestrale fût le principal moteur de leur ambition ne dérangeait pas le général. La conquête du pouvoir s'accommodait parfaitement de ce genre de ressentiment.
« Comment a réagi l'Église ?»
demanda encore Ménati Imperator.
« Après tout, c'est elle qui faisait le plus grand usage des Skaïtes. »
L'Église du Kreutz devra également revoir tout son fonctionnement. Les offices d'effacement s'annulent d'eux-mêmes, puisqu'il n'y a plus personne pour les perpétrer. Je crains que les Kreutziens privés de leurs inquisiteurs n'en soient réduits à essayer de convaincre plutôt que d'employer la contrainte.
J'ai l'impression que cet état de fait vous réjouit. Me trompais-je?
Le feu de la conviction remplacera le feu des croix.
Étrange parole dans votre bouche. Je vous imaginais Kreutzien fervent. Comme tout bon Syracusain.
Je croyais sincèrement l'être. Le départ des Skaïtes m'a ouvert les yeux. Je revendique la liberté de conscience pour chaque être humain.
L'empereur resserra les pans de sa palatine, noua soigneusement sa ceinture, fit quelques pas dans le jardin de ses appartements, s'assit sur la margelle du bassin, se laissa bercer par le murmure de la fontaine de pierre noire, huma les parfums fleuris colportés par le vent Coriolis. Il tourna la tête lorsqu'il entendit les chaussures de l'officier supérieur de la garde pourpre crisser sur l'allée de gemmes blanches.
« Permettez-moi de m'étonner, général, de votre brusque revirement d'attitude. Votre soudain plaidoyer pour le libre choix religieux et, si j'ai bien saisi le sens caché de vos paroles, pour l'autodétermination politique des peuples planétaires, me paraît pour le moins déplacé de la part d'un homme qui a profité de l'Angempire pendant plus de 20 années universelles. Car je crois me souvenir que vous n'avez jamais refusé vos prébendes d'officiers, que vous vous êtes rendu avec un empressement certain, suspect, aux soirées privées auxquelles vous étiez conviés. Que vous avez supervisé des opérations de nettoyage ethnique sur certaines planètes agitées, que vous ne vous êtes jamais opposé de manière formelle ou informelle aux décisions du Conseil impérial. Il existe une expression triviale pour qualifier votre comportement. Le retournement de veste, ou quelque chose d'approchant. Cette façon de vous tourner comme une girouette au vent dominant m'incline à penser que vous envisagez ma destitution.
Le général prit conscience que les effets des effacements de Menati Imperator s'étaient entièrement estompés avec la disparition des Skaïtes d'Hyponeros. Son esprit avait recouvré toute son acuité, toute sa combativité, et si le même phénomène se produisait sur tous les esprits convertis de force au kreutzianisme, le réveil risquait d'être terrible pour les hommes d'Église disséminés sur les planètes de Langue Empire.
« Mieux vaut tard que jamais. Nous sortons d'un mauvais rêve, Votre Majesté, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour en corriger les conséquences désastreuses. »
« Que vous ont promis ceux qui vous ont envoyé, général? Un poste de conseiller? Une fortune? Pourquoi ne me tuez-vous pas tout de suite? Vous voulez respecter les formes? On ne tue pas un homme que l'on a tiré des bras d'une femme? Eh bien, répondez !»
Hors de lui, Menati Imperator se redressa, et ses doigts boudinés agrippèrent le col de la veste pourpre de l'officier.
« Je vous assure qu'on ne m'a rien promis, Majesté. On m'a seulement envoyé près de vous pour vous presser de prendre les décisions qui s'imposent. Nous sommes persuadés que les Skaïtes se sont retirés pour préparer une offensive d'envergure. »
Le cadet des Hang desserra son étreinte et se laissa de nouveau choir sur la margelle du bassin, comme terrassé par son soudain emportement. Le teint de son visage tirait sur un rouge violacé qui trahissait l'imminence d'une défaillance respiratoire ou cardiaque.
« L'hypothèse stupide, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Les Skaïtes n'avaient pas besoin de se retirer pour nous soumettre. Ils contrôlaient tous les mécanismes de Langue Empire. »
« Je m'aperçois, Majesté, que vous commencez à reconnaître, » commença le général.
« Imbécile ! Je n'ai pas attendu vos conseils pour me faire ma propre opinion. J'ai pris conscience depuis longtemps que nous étions des marionnettes manipulées par les Skaïtes.
Veuillez me pardonner, Votre Majesté, mais le fond de votre pensée nous avait échappé.
De la même manière que la vôtre m'avait échappé, général. Nous nous sommes dupés mutuellement, n'est-ce pas ? »
Menati Imperator trempa la main dans l'eau du bassin et s'aspergea délicatement le front. Le mauve du second crépuscule se diluait dans l'indigo nocturne.
Une dernière question, général. Lorsque vous vous serez débarrassé de moi, que comptez-vous faire de mon épouse, d'Amanit et de mes trois enfants?
Je ne puis vous répondre, Majesté. Cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Allez donc dire à ceux qui vous ont envoyé que nous tiendrons conseil dans 30 minutes. Que tous soient présents. Les conseillers impériaux, les délégués des guildes professionnelles, les grandes familles, les représentants des cardinaux et du haut vicariat. Je paraîtrai avec mon épouse et mes enfants. »
Le général claqua des talons, s'inclina, traversa le jardin, la chambre, et sortit par l'entrée officielle des appartements. L'empereur de l'univers s'autorisa alors à laisser couler des larmes.
Sibrit de Majahi, combien de fois l'avait-il aimée sur la pelouse fuchsia de ce jardin?
Les loges volantes s'engouffraient l'une après l'autre à l'intérieur de la salle des réceptions officielles. Les maîtres du protocole n'avaient disposé que de 30 minutes pour mettre sur pied une réception impériale digne de ce nom. Ils n'avaient pas eu le temps de revêtir leur habit traditionnel et, moins nombreux qu'à l'accoutumée, ils couraient sans cesse d'un pupitre à l'autre pour programmer l'emplacement des loges en fonction de la qualité de leurs occupants. Le bruit s'était répandu comme une onde lumineuse que Menati Imperator s'apprêtait à faire une communication de la plus haute importance au sujet de la mystérieuse disparition des Skaïtes d'Hyponeros, et pour rien au monde les courtisans n'auraient voulu rater l'événement. Ils avaient entendu dire qu'un coup d'État se préparait dans les couloirs du palais impérial. Ils espéraient, sans oser se l'avouer, que les conjurés exploiteraient cette réception pour passer à l'action. Ils assisteraient peut-être, enfin, à l'extinction définitive de la dynastie Hang, dont le dernier représentant, Menati, était à la fois le plus beau fleuron, le seul qui avait accédé au statut d'empereur, et le symbole le plus haïssable. On le surnommait Trois Ob, ou Zob III, obèse, obsédé, obsolète. L'odeur du sang les avait attirés comme des mouches, et cette affluence n'arrangeait guère les affaires des maîtres du protocole, débordés. On s'était déjà débarrassé du Marquinatol, un autre symbole haïssable, et c'est avec la même jubilation qu'on se disposait à pousser Menati Imperator dans les oubliettes de l'histoire. Les étoiles holographiques du plafond se remplissaient peu à peu de lumière, de même que les appliques murales et les lampes incrustées dans le parquet d'optallium doré. Les conversations allaient bon train à l'intérieur des loges, ou même de loge à loge. On se saluait à grand renfort de gestes, on se hélait sans vergogne, on écornait quelque peu le contrôle APD. Mais à circonstances exceptionnelles, excitation exceptionnelle. L'important était d'être vu, car si, comme on le pensait, l'empereur était déposé au cours de cette soirée, on serait automatiquement classé parmi les conjurés, on se retrouverait dans le bon camp, dans le camp des vainqueurs, et on se débrouillerait pour en tirer quelque avantage, honorifique ou financier. Donc on se faisait admirer sous toutes les coutures, sans se soucier de présenter le meilleur profil, veillant seulement à être reconnu, classifié, authentifié.
Patrice de Blorenard, quelle surprise! On m'a raconté que votre servante appartenait à un réseau affilié à celui des Mars.
Entre nous, sieur Ariostéa, j'aurais souhaité que mes accords avec les Mars restent secrets. J'ai en effet demandé à ma servante, une Osgorite très fidèle, d'aller prévenir les Mars que le sénéchal Arcot envisageait leur arrestation. Mais je ne veux pas que les mauvaises langues exploitent cette anecdote pour contraindre Mihaït de Mars à me confier un quelconque poste de responsabilité, au cas où elle serait appelée à prendre les rênes de Syracusa.
Les scrupules vous honorent, sieur de Blorenard. Quel dommage que votre servante, une fille magnifique, m'a-t-on dit, ait trouvé la mort au cours de sa mission.
Je la regrette beaucoup, mais que voulez-vous? Les aléas de l'action clandestine. Faisons en sorte que son sacrifice ne reste pas vain.
Un réflexe les poussait parfois à jeter un coup d'œil sur la banquette arrière de leur loge pour s'assurer de la présence de leur protecteur de pensée. Mais ils se rappelaient que leurs esprits étaient désormais à l'abri des inquisitions mentales. Ils se sentaient soudain plus légers, aériens, comme délestés d'un invisible fardeau. Il leur faudrait encore quelques jours, voire quelques semaines, pour se réaccoutumer à la vie sans les Skaïtes. Des disputes éclatèrent devant les deux entrées de la salle. Les maîtres du protocole avaient prévenu les gardes de faction que l'amphithéâtre pouvait encore contenir une dizaine de loges, tout au plus. Or, plus de 200 s'agglutinaient dans les couloirs. On échangea des invectives, des injures, puis, lorsqu'on estima que les paroles ne suffisaient plus, on descendit des loges et on se frictionna les côtes à coups de pieds et de poings. Une escouade de gardes pourpres appelée en renfort eut toutes les peines de l'univers à rétablir le calme. Les cardinaux et les hauts vicaires occupaient les rangs les plus proches de la scène centrale. Leurs visages sombres, fermés, trahissaient leurs préoccupations. Au fil du temps, les Skaïtes, inquisiteurs et effaceurs, étaient devenus les piliers de l'Église, et leur défection aussi brutale qu'inattendue risquait d'entraîner l'écroulement de tout l'édifice. Des nouvelles alarmantes étaient parvenues de différentes capitales de planètes de langue empire et de missions reculées. Des populations autochtones s'étaient rebellées et avaient exposé des missionnaires, des exarques, et même quelques cardinaux gouverneurs sur des croix de feu à combustion lente. La cohésion de l'église du Kreutz, qui n'avait tenu qu'à la terreur presque superstitieuse exercée par les inquisiteurs, se morcelait, se désagrégeait maintenant que les peuples convertis par la force, pour leur salut certes, mais de cela ils n'étaient pas conscients, s'estimaient délivrés de leur joug. Nombreux avaient été les prélats qui, au fait de la gloire du kreutzianisme, s'était déclaré candidat à la succession moufiale. Succession était un terme impropre, l'ancien moufti n'étant peut-être pas encore mort. Très rares étaient ceux qui persistaient dans leur entreprise. on plaignait par avance le prochain souverain pontife, car après des années de progression glorieuse, l'Église était appelée à subir un sérieux coup d'arrêt, peut-être même un mortifiant retour aux sources. On exhumerait certes l'Inquisition à l'ancienne mode, mais privée du potentiel télépathique des scaïtes, elle n'empêcherait pas les hérésies, les schismes, les hétérodoxies de se multiplier sur le sol syracusain, sur les satellites, et on en reviendrait au même point que 3 millénaires plus tôt. Le travail accompli, les sacrifices des missionnaires, le dévouement des exarques et des vicaires n'auraient servi à rien. Les ecclésiastiques contemplaient le plancher d'optallium blanc et doré comme les fragments de leurs grands rêves brisés. Les maîtres du protocole s'écartèrent, et Menati Imperator, son épouse Damanite et ses 3 enfants firent leur apparition sur la scène centrale. Le grésillement des caméras, commandées depuis des cabines auto-suspendues de l'âge haut, se glissa dans le silence impressionnant qui tomba sur l'immense pièce. L'empereur, Damanite et les enfants, les 2 princes et la princesse, étaient vêtus de blanc, col en corps et cape, une impression de sobriété renforcée par l'absence totale de mèches décoratives, de phares, de nacrelles et d'accessoires. On trouva Menati encore plus empâté qu'à l'ordinaire. De nombreuses femmes désiraient ardemment qu'on en finisse avec cet homme, dont elles avaient enduré les assauts pesants. Damanite, encore plus maigre que d'habitude, certains hommes avaient gardé des souvenirs douloureux de ses os saillants. Les enfants, aussi dénués d'intérêt que de coutume, des monstres capricieux, méchants, voraces et stupides, selon les gouvernantes qui s'étaient succédées à leur service. Menati Imperator écarta les bras pour réclamer un silence qu'il avait déjà obtenu, preuve que son esprit n'avait plus toutes ses facultés. Sa voix grasseyante grésilla dans les minuscules haut-parleurs que les occupants des loges avaient placés devant leurs oreilles.
« C'est la dernière fois que je vous souhaite la bienvenue dans ce palais. Non pas que ce magnifique bâtiment soit voué à la destruction, mais mon règne aura pris fin à l'issue de cette réception. La disparition inexplicable des scaïtes d'Hyponeros fait courir un terrible danger sur l'Ang Empire et marque l'échec total de la famille Ang. »
La sincérité brutale de l'empereur surprit les courtisans, eux qui avaient élevé la flagornerie au rang d'un art, également appelé auto-psyché-défense.
« Je revendique la responsabilité de cet échec, mais rassurez-vous, je ne m'accrocherai pas à ce pouvoir dont certains semblent pressés de m'éloigner. Et je vous fais la promesse formelle que les Hang ne revendiqueront plus jamais la conduite des affaires syracusaines. Mon frère Ranti et ses 2 fils sont morts. Sa fille Xaphite, qui vivait dans la province de Majai, d'où était originaire sa mère, Dame Sibrite, a été exécutée il y a 2 minutes de cela. »
Un murmure parcourut l'assemblée et vint s'échouer au pied de l'estrade comme une vague hostile.
« Mes 2 fils, ma fille et moi-même, nous sommes donc les 4 derniers représentants de la lignée Hang. »
Tout en parlant, il avait sorti un objet métallique et brillant d'une poche de sa cape. Horrifiés, les assistants des premiers rangs reconnurent la forme caractéristique d'un nom de mort. L'empereur embraqua le canon sur la tempe de son 1er fils, pressa sans hésitation la détente et lui pulvérisa le crâne. Les débris de la cervelle du garçon éclaboussèrent la cape blanche de son père, et son petit corps tomba comme une masse sur le parquet. Dame Anite semblait totalement indifférente à l'atroce crime qui venait de se perpétrer sous ses yeux. Elle ne réagit pas davantage lorsque son auguste époux exécuta son 2e fils, puis sa fille. Ni les maîtres du protocole pétrifiés, ni les gardes, ni les ecclésiastiques des premiers rangs n'eurent le temps, le réflexe ou la volonté d'intervenir pour empêcher ce massacre. Menati Imperator tua ensuite son épouse d'une onde en plein cœur, puis, maculé du sang et de la chair pulvérisée des siens, il s'avança au bord de l'estrade et fixa longuement le mur de loge qui le surplombait.
« Je suis le dernier Hang !» cria-t-il d'un air de défi. « Le dernier Hang, vous m'entendez ? Pardon, Sibrit.
Il enfonça le canon de son arme dans sa bouche. Les os de son crâne furent projetés à hauteur des loges du quatrième rang.